Histoire vivante. Une émission proposée par Laurent Huguenin-Elly.
La grande découverte à Qumran des fameux manuscrits de la Mer Morte a bouleversé nos connaissances des textes sacrés. Pour Michael Langlois, spécialiste de littérature hébraïque et araméenne, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, chercheur associé au CNRS et Collège de France, ces manuscrits sont la meilleure source d'informations pour étudier le Nouveau Testament. Des manuscrits copiés essentiellement entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, qui ne changent pas le cœur même du message de l'Évangile, mais bien plutôt qui l'éclaire. Michael Langlois a notamment co-signé l'ouvrage « Qumran, le secret des manuscrits de la Mer Morte » édité par la Bibliothèque nationale de France. Il est au micro de Lénora Krief. Cette semaine, l'aventure de la Bible. Soyez les bienvenus.
Michael Langlois, est-ce qu'on sait, de par les recherches, comment s'est écrit le Nouveau Testament, comment il s'est écrit peut-être en rupture avec l'Ancien? Qu'est-ce qu'on sait de cette écriture?
La rédaction du Nouveau Testament diffère considérablement de celle de la Bible hébraïque, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la durée, la période de rédaction est beaucoup plus courte. Pour ce qui est de la Bible hébraïque, on est probablement de l'ordre de l'échelle du millénaire pour la rédaction de la Bible hébraïque. Alors que pour ce qui est du Nouveau Testament, on est sur une échelle de l'ordre du siècle. Jésus est donc du 1er siècle de notre ère. Et puis dès le 2e siècle, ça y est, on a des manuscrits. Et d'ailleurs, au 4e siècle, on a déjà des Nouveaux Testaments complets. Donc, on sait que ça va beaucoup plus vite, d'une certaine manière. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc une période de rédaction beaucoup plus ramassée. Et puis deuxièmement, ce qui est frappant dans le Nouveau Testament, c'est l'usage massif du grec. Tout le Nouveau Testament est rédigé en grec. Peut-être qu'un évangile avait d'abord été rédigé en araméen, mais on n'en sait rien. Mais sinon, on change de paradigme d'une certaine manière.
Et si on change de paradigme de langue, c'est justement pour créer une rupture avec l'hébreu et l'araméen ?
Cette rupture avec l'hébreu et l'araméen, elle a peut-être d'abord une motivation purement pragmatique, de communication à un public beaucoup plus large. Le grec, à l'époque, au 1er siècle de notre ère, c'est la langue internationale. Donc, si on écrit en hébreu, on s'adresse à une petite communauté, les juifs qui habitent à Jérusalem, en Judée, quelques dizaines de kilomètres, un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de Jérusalem. Si vous écrivez en araméen, alors vous vous adressez à la communauté juive plus large, en Orient, vous allez du côté de la Syrie, tout ça, même la Babylonie. Mais vous ne touchez pas du tout le bassin méditerranéen. Donc vous avez des milliers de kilomètres de tout l'Empire romain, finalement, d'une certaine manière, qui vous échappe parce que ces gens ne vont pas lire votre langue, y compris les Juifs, y compris les Juifs qui, à Alexandrie, en Grèce, à Rome, etc., ne parlaient pas l'hébreu et probablement pas l'araméen. Et on le sait, puisque plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on avait déjà commencé à traduire en grec les livres de la Bible hébraïque. Donc, à mon avis, il y avait déjà l'idée de parler aux Juifs de langue grecque. Mais il y a aussi évidemment l'idée, très vite, de parler à des gens qui ne sont pas juifs.
Donc cette idée de créer une nouvelle communauté.
Et oui, on se pose très vite la question de dire finalement, est-ce que le message de Jésus, Jésus de Nazareth, le Messie des Juifs, le mot Messie, c'est un mot araméen, c'est un vocabulaire du judaïsme, c'est celui qui a reçu l'onction, donc tout ça c'est des références bibliques de la Bible hébraïque, donc, on considère qu'il est le Messie, mais est-ce que son message s'adresse uniquement aux Juifs ? Certains disent, bah oui, bien sûr, puisque le concept même de Messie est juif. D'autres disent, eh bien non. Et d'ailleurs, quelques non-juifs, au départ, s'intéressent à Jésus et deviennent des disciples, veulent devenir des disciples de Jésus, alors qu'ils ne sont pas juifs à la base. Dans le Nouveau Testament, on nous raconte l'histoire justement d'un Romain, d'un soldat romain, dont on nous dit que lui cherche Dieu sincèrement et que, par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre, eh bien il va découvrir la foi en Jésus, le Messie, et va même recevoir l'Esprit Saint, et on lui dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va le baptiser. Et donc, voilà un Romain qui n'est pas juif et qui devient disciple de Jésus. Alors, au début, c'est une ou deux personnes, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Est-ce que ces personnes-là, on leur dit, bah, écoutez, maintenant, vous devez vous convertir au judaïsme, puisque Jésus est le Messie du judaïsme, ou bien est-ce qu'on va trouver une nouvelle forme de religion qui permet d'inclure des non-juifs parmi les disciples de Jésus. Et cette nouvelle pratique religieuse, on va lui trouver un nom. Et bien sûr, on va lui trouver un nom en grec. Donc, on ne va plus parler des Nazaréens ou des Nazoréens. On va parler des chrétiens. Le mot christianisme vient du grec, Christos, qui est tout simplement la traduction grecque du mot messie en araméen. Donc, en fait, on garde le même mot, mais on le passe en grec. C'est comme si aujourd'hui, au lieu d'avoir un mot français, je le passais à l'anglais pour pouvoir viser une population internationale en disant, voilà, j'ai un produit que je vais lancer dans le monde entier, je vais commercialiser dans le monde entier, donc je vais choisir un mot anglais que tout le monde comprend. Alors évidemment, il ne suffit pas simplement de trouver le mot, il faut aussi trouver les modalités. Et les modalités, c'est aussi la question de la pratique religieuse. Il y a, à l'époque, des éléments fondamentaux qui caractérisent le judaïsme, et qui sont encore vrais aujourd'hui d'ailleurs, la pratique du Shabbat, le sabbat. Un jour par semaine, on se repose, on ne travaille pas. Les règles alimentaires, on ne mange pas de porc et d'un certain nombre de choses, etc. C'est une des caractéristiques du judaïsme. Et puis la circoncision. On circoncie les enfants, les garçons à la naissance. Et donc la question va se poser de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de ces éléments-là? Est-ce qu'on va les imposer à tous ceux qui vont devenir disciples de Jésus et qui ne sont pas juifs? Alors, est-ce qu'une fois adultes, on va les circoncire? Est-ce qu'on va leur dire? Ou bien est-ce qu'on va trouver là encore une solution pour eux? Et là encore, ça nous est raconté dans le Nouveau Testament lui-même. Branle-bas de combat, tout le monde se réunit à Jérusalem, on en discute, c'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. Certains disent, mais nous faisons partie du judaïsme, donc ces nouveaux adhérents à notre mouvement doivent respecter ces règles. D'autres disent, non, 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 si on fait ça, en fait, on va passer à côté du message universel du Christ. Il faut trouver une solution.
Et alors, Michael Langlois, justement, quel compromis trouve-t-il?
Alors, le compromis est assez intelligent. On va quand même garder quelques interdits, quelques exigences minimalistes, symbolique, mais on va leur épargner d'une certaine manière les contraintes les plus importantes. Voyez ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 29. On leur demande de s'abstenir, je cite, « des viandes de sacrifice païens, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité ». Donc finalement, vous voyez, on ne garde pas grand-chose. L'immoralité, il faut bien sûr avoir une vie, bien sûr, exempte d'immoralité. Il faut également éviter l'idolâtrie, donc les sacrifices païens, etc. On n'adore que Dieu et donc on ne va pas se mélanger avec des païens. Et puis enfin, pour ce qui est des règles alimentaires, on ne va pas leur interdire de manger du porc, par exemple. En revanche, on va dire il ne faut pas consommer le sang. Donc on ne va pas étouffer les animaux, il faut les égorger, les vider de leur sang, etc. Parce que la vie est dans le sang. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible, pas que dans la Bible d'ailleurs, mais on avait déjà compris à l'époque, si vous videz quelqu'un de son sang, il meurt. Donc on avait bien compris que le sang contenait la vie. Donc finalement, vous voyez, on ne leur demande pas grand-chose. On dit, écoutez, voilà, on vous demande ça, il faut quand même que vous changiez un petit peu de comportement et que vous marquiez le fait que maintenant vous appartenez à une nouvelle religion, mais ça n'est pas non plus les exigences classiques du judaïsme à l'époque. Donc là, il y a une vraie rupture. Voilà, ces gens, ils ne seront pas circoncis, ils ne vont pas respecter le Shabbat, ils ne vont pas respecter les règles alimentaires. C'est quand même un élément de rupture qui ne concerne que quelques personnes à l'époque. À l'époque, c'est simplement à la marge. L'immense majorité des disciples de Jésus sont des juifs. Mais on se dit, allez, voilà, on va faire quelques exceptions pour ces quelques non-juifs qui sont parmi nous. Peut-être ne s'imaginait-il pas que très vite, la proportion allait s'inverser.
Mais finalement, qu'est-ce qui fait que la proportion s'inverse et en combien de temps?
Alors, la proportion s'inverse au grand regret de l'apôtre Paul, par exemple, qui raconte que lui, partout où il commence par aller à la synagogue et il dit, voilà, nous attendons le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, qui est descendant du roi David. Eh bien, il est là, il s'appelle Jésus, et en fait, personne n'y croit. Et les Juifs le rejettent en disant, mais non, mais non. Alors, il faut dire qu'à l'époque, il y avait d'autres candidats, Messie, mais l'apôtre Paul est malheureux. Et donc, n'ayant pas de succès auprès de ses coreligionnaires juifs, il se tourne vers les non-juifs. Et à sa grande surprise, ils sont nombreux à adhérer à ce message. Alors il faut aussi comprendre qu'à l'époque, dans l'Empire romain, il y avait déjà, on va dire, une prise de distance par rapport à la religion romaine traditionnelle, qui était une religion polythéiste. Vous savez, toute cette mythologie grecque et romaine, avec ces dieux qui font la guerre, qui font l'amour, qui sont finalement très humains. Et suite à des réflexions un petit peu philosophiques, des écoles de pensée philosophique, on disait, mais est-ce que vraiment c'est ça notre religion? Est-ce que les dieux sont vraiment comme ça? Et donc, il y avait un intérêt pour une autre forme de religion un petit peu exotique, selon eux, avec, par exemple, cette croyance en un dieu unique, en un dieu qui n'a pas de représentation visible, en un dieu qui n'a pas de nom. Et donc, on se dit, ah, mais c'est fabuleux, de cette religion. Donc, il y avait une appétence, un intérêt, déjà pour le judaïsme à l'époque, et plus encore pour cette nouvelle forme de judaïsme qui apparaît, avec Jésus comme étant le Messie, et qui, en plus, était une forme moins contraignante. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, que assez vite, eh bien, de plus en plus de non-juifs adhèrent à ce message, d'autant que, comme on l'a vu, on leur a dit, vous n'avez pas besoin de vous convertir au judaïsme, donc d'une certaine manière, vous avez les avantages du judaïsme sans avoir les inconvénients, si je peux me permettre. Et donc c'est vrai qu'assez vite, en quelques dizaines d'années seulement, la proportion s'inverse. Alors c'est assez difficile hein, de ménager la chèvre et le chou, on le voit dans l'épître aux Romains, la première épître dans le Nouveau Testament, dans l'ordre dans lequel les livres sont disposés actuellement, où l'apôtre Paul finalement écrit aux chrétiens de Rome, qui sont pour partie d'origine juive, pour partie d'origine non-juive, et où il commence déjà à y avoir une fragmentation. Les chrétiens d'origine juive ne veulent pas se mélanger avec les chrétiens d'origine non-juive, ou réciproquement d'une certaine manière. Autrement dit, au lieu d'avoir une seule communauté chrétienne unie, on se retrouve déjà à avoir comme ça des gens qui s'insultent, qui se rejettent, qui se tapent dessus, etc. Et il est obligé de construire toute une épître pour rappeler qu'il y a un seul et même plan de salut de Dieu pour l'humanité, pour les juifs et pour les non-juifs, en essayant de dire ce sont quand même les juifs qui sont les premiers, il faut quand même les honorer, il ne faut pas non plus rejeter les non-juifs, et grosso modo, il conclut à la fin de son épître en disant « acceptez-vous mutuellement, parce que nous sommes tous frères ». Et c'est ça qu'il essaie de dire. Mais ça montre bien qu'à l'époque, déjà au milieu du 1er siècle, déjà à Rome, on le voit, il commence à y avoir des tensions entre les chrétiens d'origine juive et d'origine non-juive. Et malheureusement, la situation ne va pas s'arranger dans les décennies qui suivent.
Et ce travail de réécriture, parce que c'est un travail de réécriture, en fin de compte, le Nouveau Testament, comment il s'est organisé ?
Alors, on ne sait pas grand-chose du travail d'écriture et de réécriture du Nouveau Testament. On a des manuscrits à partir du 2e siècle, après Jésus-Christ, qui sont fragmentaires. Donc on observe un petit peu un petit travail rédactionnel, mais en fait, cette rédaction, elle va très très vite. Ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'au niveau de la forme littéraire, entre les livres même du Nouveau Testament, on observe déjà en interne un travail de réécriture. Je prends l'exemple des évangiles. Il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. En fait, il en existait d'autres, évidemment, à l'époque. On en connaît plusieurs dizaines. 4 ont été sélectionnés. Ces 4-là ont la particularité d'avoir des sources communes. C'est-à-dire qu'il y a parfois des passages entiers qui sont, on dirait aujourd'hui, copiés-collés de l'un à l'autre. Alors on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un des 4 évangiles qui a été écrit d'abord et puis les autres ont réécrit cet évangile? Alors on a dit, c'est peut-être l'évangile selon Matthieu qui a été écrit en premier. Et puis après on a dit, non, c'est plutôt l'évangile selon Marc qui a été écrit en premier. Les autres ont réécrit Marc. Après on a développé des théories plus complexes en disant, ah mais non, parce que finalement on a à la fois Marc et Matthieu. L'un est déjà une réécriture de l'autre, mais le troisième s'en sert. Donc tout ce travail rédactionnel est très complexe. Je pense qu'il vaut mieux être prudent en disant, il y avait des sources écrites en grec, communes à la rédaction de ces évangiles, et chacun a intégré ces différentes sources à sa façon. Ça correspond bien à ce qu'on voit avec les manuscrits de la Mer Morte. À la même époque, à Qumran, on voit des processus d'harmonisation, d'emprunt. Je viens chercher à droite, à gauche, dans d'autres œuvres littéraires, des passages parallèles, je viens les mettre côte à côte, j'ajoute une phrase, je l'enlève, etc. Donc le même travail éditorial qu'on constate parmi les manuscrits de la Mer Morte au tournant de notre ère, on voit la même chose dans le Nouveau Testament, quand on compare les différents évangiles. Et la même chose pour d'autres livres, les épîtres. Par exemple, si vous comparez la deuxième épître de Pierre et l'épître de Jude, on voit que l'une est une réécriture de l'autre. Donc, même si on n'a pas de manuscrits du Nouveau Testament et des évangiles du 1er siècle de notre ère, on peut quand même, rien qu'en mettant côte à côte ces livres, comprendre qu'il y a eu un véritable travail éditorial de réécriture de ces différentes sources pour les adapter en fonction des différentes communautés chrétiennes qui se sont développées au cours du 1er siècle.
Et dans l'écriture grecque, on pouvait voir justement des niveaux de langage un peu différents ?
Oui, tout à fait. Et ça permet de distinguer différents auteurs. On voit bien que parmi les auteurs du Nouveau Testament, il y en a certains qui ne maîtrisent pas très bien le grec. Hein. On voit bien qu'en fait, eux, leur langue à eux, c'est l'araméen, ou l'hébreu peut-être. En tout cas, une langue sémitique, on va dire, et qu'ils ne font que retranscrire en grec ce qu'ils pensent en araméen. D'autres, en revanche, font montre d'une maîtrise parfaite du grec. Je pense notamment à l'apôtre Paul. Quand on lit les épîtres de l'apôtre Paul, il utilise vraiment des phrases très complexes, des propositions subordonnées, des conjugaisons rares comme l'optatif, etc. Donc on voit que l'apôtre Paul, lui, tout en étant juif, hein, il dit « je suis pharisien, j'ai été formé au pied de Gamaliel à Jérusalem », il a cette double formation universitaire, pourrait-on dire, dans le judaïsme à Jérusalem, mais aussi il vient de Tarse. Autrement dit, il vient, ce qui est en Turquie à l'heure actuelle, il vient d'une région hellénophone. Donc lui, sa langue maternelle, c'est le grec. Et en plus, il a manifestement étudié, aujourd'hui on dirait qu'il a fait des études littéraires à l'université, et sa maîtrise du grec est excellente. Donc ça, ça nous permet de bien distinguer différents auteurs dans le Nouveau Testament. Et puis, il y a évidemment la question des genres littéraires, c'est-à-dire que Paul écrit des épîtres, donc ce sont des lettres, des traités, des discours, il organise sa pensée, il utilise des grandes structures littéraires, des parallèles, des chiasmes, etc. Alors que quand vous lisez les évangiles, c'est ce qu'on appelle de la parataxe, c'est-à-dire on dit il fit ceci, il fit cela, c'est un texte narratif, une histoire qu'on raconte comme on le fait déjà dans la Bible hébraïque, justement dans le judaïsme. On trouve également, tout à la fin du Nouveau Testament, une apocalypse, l'apocalypse de Jean. Le mot apocalypse veut dire révélation. Ça n'est pas un genre nouveau. En fait, on l'a déjà, dans une certaine manière, dans la Bible hébraïque, avec des livres comme Daniel ou Ézéchiel. Et puis aussi, à la même époque, quand on regarde à Qumran, le genre littéraire qu'on appelle l'apocalypse est un genre très répandu. On a le livre d'Enoch, qui est peut-être l'apocalypse la plus connue, mais aussi tout un tas d'autres livres. Donc ça, ça nous permet, une fois encore, de dresser le profil de ces auteurs, même s'ils sont inconnus, même si, bon, évidemment, ces livres disent, l'Apocalypse de Jean, on dit c'est Jean qui a reçu cette révélation. Mais peu importe que ce soit Jean, et si c'est Jean, lequel, voyez, d'une certaine manière, l'auteur qui se cache derrière Jean, c'est quelqu'un qui baigne dans cette tradition juive, littéraire, araméenne notamment, d'Apocalypse.
Michaël Langlois, étudier la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est justement donc étudier aussi ces différentes communautés, ces différentes façons d'écrire, c'est le contexte historique aussi. C'est pour ça que c'est aussi passionnant.
C'est très passionnant parce que ça permet d'être confronté à la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on nous raconte, il y a les histoires qu'on entend quand on est enfant, on va au catéchisme, tout ça, voilà, donc on nous raconte les histoires. Et puis là, d'un seul coup, on est plongé d'une certaine manière dans ce qui se passe à l'époque. Et c'est vrai que de lire entre les lignes, de regarder, de dire « tiens, c'est marrant, mais la même histoire est racontée à la fois dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, mais pas de la même manière. » On observe que l'évangile de Matthieu prend soin de faire le lien avec la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, l'accomplissement des prophéties, etc., des choses qui vont parler à des juifs. Il commence par la généalogie de Jésus, il commence par dire que Jésus est le fils de David, vous voyez, ça n'intéresse que des juifs. Donc, on voit, on peut en creux comme ça comprendre qui se cache derrière ces différents auteurs, derrière ces différents livres, les communautés au sein même du christianisme, juive ou non juive, en Judée ou ailleurs, en Orient ou en Occident, et qui sont en train de se développer peu à peu. Cette richesse de la formation de la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ici en l'occurrence, et de la naissance du christianisme, donc du développement des premiers siècles de notre ère et de cette émancipation du christianisme par rapport au judaïsme, ça pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux et qui est un grand, grand sujet d'étude maintenant. Ce n'est pas des choses qu'on faisait avant, on ne s'intéressait pas trop à ça. D'ailleurs, on séparait bien Ancien et Nouveau Testament. Encore à l'heure actuelle, d'ailleurs, souvent, il y a une sorte de frontière. On est soit spécialiste d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament. Et si on est spécialiste de Nouveau Testament, on ne s'intéresse pas au judaïsme parce qu'on pense que c'est une autre religion. Que ça n'a rien à voir, alors que moi je pense tout le contraire. Il y a une véritable continuité et il faut absolument comprendre le Nouveau Testament comme étant cette production littéraire du judaïsme du premier siècle de notre ère et comprendre le christianisme dans ses origines juives.
Michael Langlois, ça paraît étonnant justement qu'un texte qui est toujours dans cette évolution, cette réécriture, en fonction effectivement des courants de pensée, à un moment s'est arrêté et s'est fixé. Pourquoi ?
C'est une très très bonne question. Alors, on a des indices. Par exemple, pour ce qui est de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, quand on regarde les manuscrits de la Mère Morte les plus tardifs, ceux qui datent de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle, leur texte, et le plus souvent identique avec le texte qui sera officialisé, on va dire, par le judaïsme rabbinique, et qui est encore celui qui est lu aujourd'hui à la synagogue. Donc c'est quand même impressionnant de se dire que finalement le texte qui est lu aujourd'hui à la synagogue, il y a 2000 ans, il était déjà prêt d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, on s'en donne à cœur joie pour réviser le texte biblique, et pourquoi au 2e siècle, on arrête ? Quel événement a pu provoquer ce changement ? Il me semble que la destruction du temple à Jérusalem en l'an 70, après Jésus-Christ, est un événement majeur. À cette époque-là, on perd finalement ce qui est le cœur de l'expression de la religion juive. Le temple à Jérusalem, c'est le centre du judaïsme. Il n'y a plus de temple. Sur quoi va-t-on se centrer ? On se centre sur l'étude de la Torah. On se centre sur le texte, et c'est le texte qui va constituer les fondations de la religion. C'est plus le temple est détruit. Il ne faudrait surtout pas que la Bible soit elle aussi détruite. Donc, on dit, attention, on ne touche plus au texte. Alors, il va encore évoluer un petit peu, évidemment, mais plus beaucoup. Dans le christianisme, on peut aussi se poser la question de dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va arrêter ? Alors, la destruction du temple en l'an 70, c'est évidemment trop tôt. Et puis, quand on compare les manuscrits du Nouveau Testament, du 2e, 3e siècle, on voit encore une activité rédactionnelle importante, jusqu'au 4e siècle. 5e siècle, ça commence à se calmer un petit peu. Alors, on regarde, on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au 4e siècle ? Au 4e siècle, il y a la conversion de l'empereur Constantin au christianisme. Et donc le christianisme qui est soudain propulsé sur le devant de la scène, c'est la religion de l'empereur. On va convoquer des grands conciles, le concile de Nicée en 325, et puis toute une série de conciles jusqu'au 5e siècle, Chalcédoine 451, etc. Donc on va avoir toute une série de conciles qui va viser à consolider cette religion. Le christianisme est devenu une religion, on n'est plus dans la petite start-up, voyez, où chacun fait un peu ce qu'il veut, on est dans une grosse multinationale. Donc, il faut absolument consolider tout ça, il faut avoir, je ne veux voir qu'une seule tête, aurait pu dire l'empereur Constantin. Bon, j'exagère évidemment, mais on le voit bien, au 4e siècle, on discute de tous les dogmes fondamentaux du christianisme, de la nature du Christ, de la place de la Vierge Marie, etc. On discute aussi des livres. Quels sont les livres qui doivent être dans la Bible ? Et là, on a tout un tas d'auteurs chrétiens du 4e siècle, ce qu'on appelle les pères de l'Église, qui y va chacun de sa liste. Moi, je pense que tel livre, on devrait le prendre, celui-là, non, etc. Donc, à partir du moment où on est dans cette réflexion au 4e siècle en disant « il est important de se mettre d'accord sur une base scripturaire », eh bien, il est également tout à fait cohérent, logique, de dire « on va arrêter de modifier le texte biblique ».
Michael Langlois, à partir de quel moment est-ce qu'on se pose la question des auteurs et de l'écriture de la Bible du Nouveau Testament ?
La question se pose assez vite. On a des traces déjà de discussions, déjà au 2e siècle après Jésus-Christ, sur qui est l'auteur de tel ou tel livre, de tel ou tel évangile. Il y a un évangile selon Judas, par exemple, mais est-ce que c'est vraiment Judas qui a écrit cet évangile ? Non. Voilà, donc on dit c'est faux. Mais une fois qu'on s'est décidé, l'affaire se tasse, d'une certaine manière, on n'en parle plus beaucoup pendant des siècles. Il faut attendre l'époque moderne pour qu'on remette la question à l'ordre du jour en disant, mais attendez, est-ce que vraiment c'est tel auteur, tel évangile a été écrit par l'auteur prétendu? Est-ce que vraiment telle épître a été écrite par tel ou tel apôtre? On n'ose pas trop en parler. Et ceux qui commencent à en parler, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, le font très prudemment en disant oui, alors c'est peut-être lui qui a écrit tel livre, mais il s'est servi de sources qui l'auraient inspiré, etc. Il faut attendre le XIXe siècle finalement pour que vraiment là, très franchement, on dise non, non, Paul n'a pas écrit tel épître, c'est faux. Alors je prends l'exemple de l'apôtre Paul par exemple, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. On se dit non, regardez, il y a une rupture de style, on ne parle pas des mêmes thèmes, la syntaxe n'est pas la même. Voilà, on fait ce travail de philologie qui se développe beaucoup à cette époque-là parce qu'on a les outils justement d'analyse fine du grec. Et on en conclut donc que voilà, les épîtres de Paul n'ont pas toutes été écrite par l'apôtre Paul. Alors c'est un petit peu difficile et il y a en partie des raisonnements circulaires qui font qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien ce qu'il faut penser. Vous voyez, l'hypothèse de travail, c'est de dire on va prendre quatre épîtres de Paul qui sont réputés authentiques, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, les deux épîtres aux Corinthiens, et là on va présupposer qu'elles ont bien été écrites par l'apôtre Paul, et c'est à la lumière de cette base qu'on va évaluer les autres épîtres et on va dire, ah non, celle-ci, regardez, elle est proche, elle n'est pas proche. En réalité, c'est un petit peu simpliste parce que on pourrait pousser le raisonnement plus loin. Qu'est-ce qui nous fait dire que ces quatre épîtres ont toutes été écrites par l'apôtre Paul, voyez ? Donc, pour moi, c'est évidemment des questions qui sont pertinentes. Il faut se poser la question de savoir qui est l'auteur des différents livres du Nouveau Testament, mais je préférerais que nous ayons à disposition des manuscrits anciens qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur ces questions rédactionnelles. Et pour ma part, je reste assez prudent avant d'affirmer que tel livre a bien été écrit par tel auteur ou qu'au contraire, il n'a pas été écrit par tel auteur. La question reste, à mon avis, en suspens.
Effectivement, on a mis du temps à s'interroger sur les auteurs, mais est-ce que la science, la recherche finalement sur les auteurs de la Bible, même aujourd'hui, sachant que c'est un texte sacré, est-ce qu'elle peut déranger encore aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Faire ce travail sur un texte sacré, ça peut choquer des croyants qui se réfèrent à la Bible, on pourrait dire la même chose pour le Coran, comme étant le texte fondateur, normatif, qui a autorité. Donc imaginez que vous fondez votre foi et votre pratique religieuse sur un texte et qu'on vienne vous dire, ben en fait non, on t'a menti, en fait ce texte n'a pas été écrit par qui il prétend être, etc., ou il a été écrit beaucoup plus tard. Ça c'est un discours qui a beaucoup dérangé. Et c'est pour ça que quand à époque moderne on a commencé à tenir ce genre de discours, on s'est vite dépêché de dire « Non mais rassurez-vous, même si ça n'est pas Paul qui a écrit tel épître, c'était certainement un de ses disciples, on appelle ça la pseudépigraphie, c'était une pratique tout à fait courante à l'époque, donc ça n'est pas mensonger, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, rassurez-vous. » Voilà, donc même si ça n'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque, c'est pas grave du tout. Donc on a essayé de rassurer les croyants à ce niveau-là. Moi je pense qu'il faut que la science puisse se faire, hors de toute contrainte religieuse, idéologique. Je suis content pour ça, de moi-même, de travailler en tant que serviteur de l'État, fonctionnaire, payé sur des fonds publics et non pas par un organisme privé qui pourrait me contraindre à une certaine idéologie. Et on le voit malheureusement, même quand on fait des fouilles archéologiques, etc., à partir du moment où il y a des financements privés ou des enjeux idéologiques, même de propagande, eh bien la science ne peut pas forcément se faire de façon totalement libérée. Il faut donc être très vigilant à ça, poursuivre les recherches en toute confiance. Moi, je n'ai pas peur de la vérité. Moi, je suis croyant, mais je n'ai pas envie de croire des choses dont je sais par ailleurs scientifiquement qu'elles sont fausses. C'est ce qui m'a toujours conduit depuis toutes ces années dans ma carrière scientifique en tant que chercheur, de dire je veux avoir une honnêteté scientifique fondamentale. Certes, je suis croyant, mais si mes découvertes scientifiques m'amènent à changer ma croyance, eh bien, je le ferai, tout simplement. Et vous voyez, je suis encore là aujourd'hui pour en parler. Donc, rassurez-vous, on ne risque pas grand-chose.
Un entretien mené par Lenora Krief.
Histoire vivante, une émission de Laurent Hugnaeli en collaboration avec Frédéric Pfiffer de l'unité des films documentaires de la RTS ainsi que le quotidien La Liberté. Réalisation Isabelle Barthes. Attachée de production Corinne Rochat, Daniel Zacker. Histoire vivante est à retrouver toute la semaine à 13h30 sur La Première et à podcaster en tout temps sur rts.ch ou à réécouter sur l'application Play RTS.